Vous écoutez France Culture.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages autour de l'idée. Aujourd'hui, d'une association entre l'art et les techniques, deux sujets. Qu'est-ce qu'une œuvre de net art avec Jean-Paul Fourmentreau? Et puis la modélisation des imaginaires avec Pierre Musso. Bonjour à toutes et à tous. Juste une petite annonce avant de commencer cette émission. On a décidé de donner un rythme plus régulier aux wiki-émissions de Place de la Toile chaque dimanche, désormais, une quinzaine de minutes après l'émission. À 18h15, donc, on ouvre une wiki-émission pour que vous puissiez, vous, auditeurs, réagir à ce qui vient d'être dit, pour que vous puissiez apporter d'autres sujets si vous en avez envie, pour que vous puissiez apporter vos connaissances aussi sur les sujets du jour ou de la semaine suivante. Et puis, régulièrement, il y aura des invités qui viendront se joindre à nous. On commence donc ce soir à 18h15. Vous pouvez aller sur la page de Place de la Toile sur le site internet de France Culture. Là, vous activez le player de la Wiki Radio qui se trouve dans la colonne de droite et le studio dématérialisé s'ouvrira à vous. Vous pourrez écouter et intervenir à 18h15. Donc, dans la Wiki émission, on prolonge Place de la Toile. Bonjour Pierre Musso.
Bonjour.
La modélisation des imaginaires, création et innovation, tel est l'intitulé de la chaire que vous avez inaugurée il y a quelques semaines, avec un vaste partenariat Télécom Paris Tech et l'Université de Rennes, où vous êtes professeur, et puis aussi des institutions donc où vous enseignez, et de grandes entreprises françaises qui se sont jointes à cette chaire. Alors, chaire dont vous êtes le premier titulaire.
Oui, c'est une chaire de recherche et d'enseignement.
Pour 5 ans. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de cette chaire, il y a quelques mois, par l'intervenir d'Olivier Aubert, j'ai été immédiatement intrigué par cet intitulé. Qu'est-ce que peut bien signifier le fait de modéliser des imaginaires? Les imaginaires, d'ailleurs, se modèlent-ils? C'est une vaste question. Et puis, si tant est que ce soit possible, quels imaginaires modéliser? Et quel rapport entre ces imaginaires et l'innovation, et au-delà, entre l'imagination et les technologies? Bref, vous voyez, Pierre Musso, que cette chaire suscite bien des questions que je serais ravi de pouvoir vous poser dans une trentaine de minutes. Mais vous pouvez évidemment, vous, intervenir déjà dans la première partie de l'émission. Nous allons parler net art avec Jean-Paul Fourmentreau. Archive, old artist, le vieil artiste. Bonjour Jean-Paul Fourmentreau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférences à l'université de Lille 3 et vous êtes chercheur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes l'auteur chez CNRS Éditions de Art et Internet. La première édition était parue en 2005.
C'est ça.
Il y a donc 5 ans. La seconde, revue et augmentée, est parue il y a quelques semaines. Alors j'ai donné comme titre à cette discussion, qu'est-ce qu'une œuvre de net art pour vous embêter, Jean-Paul Fourmentreau, puisque c'est exactement la question que vous n'abordez pas frontalement. Tout au moins, à laquelle vous refusez de répondre totalement frontalement. Vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas non plus chercheur en esthétique, vous êtes sociologue, donc votre livre ne consiste pas à définir une ontologie de l'œuvre de net art ou une esthétique qui serait propre à l'œuvre de net art, mais vous êtes plutôt enclin à une description des modalités de l'émergence et de la production de ces œuvres qui sont rassemblées sous le vocable net art. C'est-à-dire, vous décrivez, vous analysez la manière dont ces œuvres sont conçues, conception complexe, puisqu'elle associe forcément, ou tout au moins très souvent, un artiste et puis des développeurs, les différents dispositifs qu'elles mettent en place, ces œuvres, la manière dont elles peuvent s'exposer, par exemple, la manière dont elles peuvent s'insérer dans le monde de l'art, en général. C'est tout cela dont nous allons parler maintenant, avec évidemment quand même l'idée de cerner ou saisir une spécificité de l'œuvre de net art, notamment par rapport à l'œuvre d'art. Néanmoins, Jean-Paul Fourmontreau, vous n'échapperez pas à la définition de votre champ en bon sociologue que vous êtes, puisque si on ne va pas définir tout de suite ce que c'est qu'une œuvre de net art, au moins définissons ce que c'est que le net art, ce qu'on entend par le net art, ce que vous entendez, vous, par net art, pour savoir un peu de quoi on parle.
Oui. Alors, vous avez mis le doigt, effectivement, sur mon approche qui est de considérer l'œuvre comme une œuvre à faire, comme étant étrangère au régime ontologique de l'objet déjà là ou achevé, pour m'intéresser au contraire à la conception, la disposition et l'exposition des œuvres, puisque c'est les trois parties de mon ouvrage qui se découpent comme cela, avec une hypothèse centrale qui était que l'investigation artistique pouvait peut-être constituer un bon laboratoire pour le sociologue qui veut observer et comprendre les mutations du travail, l'invention de technologies, mais aussi de nouveaux usages sociaux promu par l'Internet, avec ce constat que depuis le milieu des années 90, on le sait bien ici à Place de la Toile, l'Internet a transformé l'art contemporain et ses formes de diffusion et de création. Dans le même temps, l'hypothèse que je faisais était que les artistes pouvaient être considérés comme des usagers pionniers aussi de l'Internet au moment où ce média, cet outil se démocratise aussi, au moment où il rencontre le grand public, donc autour de 94-95. Et ces artistes, comme ils l'ont fait auparavant avec le téléphone, la vidéo, le cinéma, la photographie, etc., vont interroger, questionner, mettre à mal l'Internet pour mieux en révéler éventuellement les spécificités ou les potentialités.
Mais Jean-Paul Fourmontreau, toute œuvre numérique n'est pas une œuvre de net art?
Non, tout à fait.
Alors c'est quoi la différence?
Alors, le net art désigne, de mon point de vue, des créations interactives. Enfin, j'y reviendrai, elles ne sont peut-être pas toutes interactives, mais disons conçues par, pour et avec Internet. Alors,
c'est-à-dire que c'est à la fois un média, la matière, c'est le média diffusion, c'est la matière, c'est le support.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on, alors, en disant par, pour et avec Internet, et en parlant de net art, j'exclus méthodologiquement aussi les formes d'art antérieures qui sont simplement exposées sur Internet. C'est-à-dire que je ne considère pas l'Internet que comme un support. Mais effectivement, il me semble que Internet apporte quelque chose d'assez original pour les artistes contemporains, c'est qu'il constitue à la fois un support, un outil, un environnement. Un support dans le sens où, effectivement, les œuvres sont montrées sur Internet. Un outil au sens où l'Internet est aussi une nouvelle palette, finalement, un médium que les artistes vont utiliser, alors en questionnant les notions d'interactivité, de temps réel, de participation du public, éventuellement. Et un environnement, ce n'est pas moins important, puisque on a aussi affaire à un monde de l'art un peu inédit qui se constitue sur le réseau, souvent en parallèle ou à l'écart des structures ou des institutions habituelles du monde de l'art, et qui a très vite ses sites, ses revues. Ses
en ligne ou pas forcément?
En ligne, souvent, comme c'est le cas de Leonardo Online ou de Synesthésie ou de Archer, par exemple, à Montréal aussi. Donc des revues qui sont à la fois des lieux de réflexion critique sur le net art, mais qui sont aussi des lieux où on montre les œuvres, où on fait une première opération de sélection de ces œuvres-là. Et donc, on a une manière d'habiter aussi le réseau dont les artistes s'emparent assez rapidement pour créer des forums, des espaces de discussion, de confrontation de leurs œuvres et finalement aussi un réseau d'évaluation même de cette pratique-là.
Mais Jean-Paul Fourmontreau, est-ce que le champ a tant changé qu'il faille une deuxième édition? Votre livre, 5 ans après la première. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2005 et 2010 pour que, hormis les impératifs, éditoriaux, vous n'allez pas republier sans augmenter un peu, mais est-ce que le champ a changé? Et s'il a changé, parce que j'espère qu'il a changé, est-ce que c'est dû au changement même de l'Internet? Je ne sais pas, l'arrivée des applications, ce genre de choses.
Oui, alors c'est vrai que j'ai retracé une période assez pionnière qui commence en 95 et de 2005, donc c'était déjà une période assez courte, hein, finalement.
95-2005, quoi, c'est 10 ans.
Voilà. Et puis, de 2005 à aujourd'hui, évidemment, il s'est passé énormément de choses également que je ne pouvais taire tout à fait en faisant cette nouvelle édition, notamment l'arrivée du Web 2.0. Alors, même si je mesure cette distinction avec un œil assez distant, puisque Web 1, Web 2, c'est évidemment aussi un argument commercial. Alors,
bien sûr, ouais.
Les artistes, souvent, d'ailleurs, faisaient de la prospective autant du Web 1 choses qui ont été développées ensuite au moment du Web 2.0. Même si on peut noter, néanmoins, peut-être une étape nouvelle pour le net art, qui est aussi parfois de sortir du réseau pour rejoindre les arts vivants, pour rejoindre aussi éventuellement des institutions, le musée, la galerie. Même si on peut noter aussi que de nombreux artistes n'ont pas embarqué dans l'évolution vers le Web 2.0.
Pour quelle raison, vous pensez ?
Bien parce que peut-être que la démocratisation de l'outil, le fait qu'il soit repris en main par le public amateur, par les internautes, a eu peut-être pour effet de les expérimentations premières de ces artistes net art, avaient été faites, avaient ouvert le champ. Justement, d'accord, de ces pratiques amateurs. Et donc, aujourd'hui, les artistes net art, je pense à quelqu'un comme Christophe Bruno, par exemple, va davantage s'intéresser aux applications, va davantage s'intéresser à Google, va davantage s'intéresser aux médias en tant que tels, plutôt qu'à ce premier mot d'ordre qui avait été celui du net art, qui était l'interactivité, la participation du public, qui aujourd'hui trouve une radicalisation, évidemment, à travers les pratiques amateurs du Web 2.0.
Et si on continue un peu sur ces questions de champ, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment, peut-être que c'est une impression fausse, que le net art est une sorte de chose à part, pas de la même manière que la vidéo, par exemple. La vidéo, l'art vidéo, c'est une partie de l'art contemporain. Et on n'a pas le sentiment que le net art soit une partie de l'art contemporain. Alors peut-être que c'est faux, mais si c'est vrai ou si on a cette impression-là, c'est qu'il y a une sorte de justesse là-dedans. Et pour quelle raison ? Alors, il est si spécifique, si à côté, qu'il n'est pas totalement dans l'art contemporain ? Ou alors je me trompe peut-être ?
Alors, moi je dirais que l'art vidéo n'a pas toujours été dans l'art contemporain.
Non, mais maintenant.
Mais justement, il y a eu une période de 30 ans depuis l'apparition de l'art vidéo dans les années 60-70 jusqu'aux années 2000, où l'art vidéo, d'ailleurs l'appellation en tant que telle, faisait sens. On parlait d'art vidéo, et pour les artistes, c'était important de considérer qu'on avait là affaire à une forme d'art spécifique. Aujourd'hui, peut-être que, effectivement, l'art vidéo est devenu, est intégré aux préoccupations du monde de l'art contemporain, mais en ayant perdu peut-être aussi une interrogation qui était spécifiquement liée au médium vidéo lui-même. Par exemple, dans mon livre, je propose de considérer une typologie des formes d'engagement artistique ou des œuvres également, ou des dispositifs net art, qui est découpée entre des œuvres de contamination médiologique, de génération algorithmique et des œuvres interactives. Donc, médiologique, algorithmique, interactive. Je considère que l'ancrage médiologique est une première phase qui accompagne l'apparition d'un nouveau média, de manière générale. On peut considérer cela avec l'apparition de la photographie et de gens qui vont, d'artistes qui vont photographier sans utiliser la caméra, en faisant les rayogrammes de Man Ray, par exemple, ou autre. On peut considérer aussi l'apparition du cinéma expérimental, qui est aussi une appellation forte, avec des gens comme Len Lai ou McLaren qui vont faire des films en interrogeant le médium directement, en déstructurant le film, en rayant la pellicule, etc. Ou dans l'art vidéo, Dame Junpeg Wolvostel, au départ, avant même de produire des monogrammes vidéo, s'intéressait au tube cathodique, au meuble lui-même, à la télévision, comme objet d'investigation artistique qu'il éprouvait, qu'il mettait à l'épreuve, pour mieux en révéler les potentialités ou les spécificités, voire les déterminismes parfois aussi sociaux. Avec le net art, on a dans un premier temps des artistes qui vont, comme c'est le cas de Jody, par exemple, de Marc Napier, d'Itoy, etc., interroger le médium lui-même de la même façon en le mettant à l'épreuve. Donc c'est une phase peut-être, une étape importante dans la définition d'un genre artistique qui interroge un média naissant. Ensuite, ce média est adopté. La pratique artistique est reconnue ou non et intègre peu à peu le monde de l'art contemporain, même si on peut considérer que certains des net artistes aujourd'hui continuent à exister sur le réseau en empruntant une logique qui est celle des pirates de l'informatique, un peu une logique déviante qui produisent des objets ou des dispositifs qui ne sont pas toujours revendiquées comme étant des œuvres d'art.
Ouais, immédiatement.
Mais immédiatement, qui agissent de manière anonyme, de manière cachée dans les entrailles du réseau, qui fonctionnent donc en jouant de la porosité des mondes aussi sur Internet. C'est-à-dire qu'on crée un dispositif qui côtoie un clic de souris, finalement, des logiques très très différentes, les logiques industrielles, les logiques... politique, etc.
Et, donc... et peut-être que l'Internet favorise cette forme d'art activisme.
Tout à fait.
On a le sentiment d'ailleurs que le net art est un art souvent très politique, de ce fait-là.
Oui, il y a un engagement effectivement très très politique parce que très souvent les artistes ont considéré qu'il y avait qu'on avait affaire là à un nouveau territoire aussi, ouvert, hein, qu'on pouvait investir et qui affranchissait d'une certaine manière, en tout cas au début, et c'était sûrement très très utopique, des contraintes du monde réel et des contraintes institutionnelles qui étaient celles du milieu académique, disons, de la production artistique, etc. Or, peu à peu, on sait très bien, on voit très bien avec l'évolution de l'Internet aujourd'hui que, au contraire, ces logiques sont très présentes, voire même parfois renforcées, hein, celles de la propriété, du nom de domaine.
De Google à Facebook.
Par exemple.
Par exemple.
Ouais. Et ce sont des logiques qui, du coup, sont interrogées par les artistes net art, évidemment.
Alors, si on s'interroge sur les spécificités de l'élaboration de ces œuvres de net art, la première que vous relevez et que vous analysez assez longuement, c'est celle de la production, enfin, de la création, de la... Effectivement, avec, vous notez, vous prenez un premier exemple, un cas qui est effectivement très intéressant, qui est un artiste qui a une idée et puis qui interagit avec les développeurs qui vont être chargés de mettre en application cette idée, enfin, de la mettre en ligne. Façon littéralement, et puis tout ce que ça pose comme problème, et jusqu'à même la notion d'auteur. C'est-à-dire que, évidemment, l'artiste est l'auteur, mais c'est pas si évident que ça, au fond, à partir du moment où l'œuvre, elle est extrêmement modifiée par l'intervention des développeurs. Bon. Et vous en faites une spécificité de ce que c'est qu'une œuvre de net art. Mais je me disais, en lisant ça, je me disais, mais au fond, est-ce que c'est très différent d'un artiste contemporain qui décide de faire une sculpture à base de bronze et qui va aller passer une semaine chez des fondeurs qui vont aussi lui dire de la même manière que le développeur le dit au net artiste, mais écoute, on ne peut pas faire exactement comme ça, et qui modifie au fur et à mesure son œuvre. Alors peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il fallait mettre le fondeur comme auteur à côté de l'artiste, quoique c'est possible que ça ait eu lieu. Et pourquoi donc c'est si spécifique cette interaction, alors qu'elle me semble opérer dans plein d'autres champs de l'art depuis extrêmement longtemps? La statue en bronze, c'est pas très récent.
Alors c'est une vaste question, hein. Là on touche au problème de la coopération, qui est un domaine fort de la sociologie du travail, c'est-à-dire comment fait-on œuvre dans des situations de interdisciplinaires où on a une production collective donc, qui doit être attribuée.
Au bout d'un moment, il faut un auteur.
Il faut un auteur. Et alors, il y a des antécédents, évidemment, si on pense aux Vitraux de Soulages, par exemple, avec un maître verrier, on a des cas où ça innove dans les deux camps.
Alors pourquoi là, c'est spécifique? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique là-dedans, ou peut-être non spécifique?
Oui, alors, disons que... Moi, j'ai interrogé ces questions-là. Au départ, c'était de la même manière que ma réflexion sur le cyber-art ou le net-art. Au départ, c'est le ministère de la Culture qui s'intéressait à ces questions-là, la délégation aux arts plastiques, qui nous avait invités, j'étais à Toulouse encore, à d'une part reconnaître des formes émergentes de création sur le net, mais aussi à s'intéresser aux nouveaux espaces qui proposaient aussi aux artistes de travailler en collaboration avec des ingénieurs informaticiens, à une époque où les artistes ne maîtrisaient pas toujours eux-mêmes assez facilement les technologies informatiques.
Oui, parce que juste une petite parenthèse, c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que les jeunes net artistes sont aussi des programmeurs et du coup, ces interactions a moins lieu.
Oui, même si pour des développements un peu sophistiqués, il faut encore appel à des informaticiens ou à des ingénieurs. Ici, donc, j'étais allé, il y avait plusieurs terrains pour cela. Il y a le laboratoire en informatique de Paris 6 où on avait suivi une œuvre en train de se faire avec un ingénieur qui faisait sa thèse de doctorat en intelligence artificielle sur le cas du Jardin des Hasards de Bernard Gorté et Guillaume Hussler, par exemple. Ou alors, pour le cas que vous citez, qui fait la première partie de mon livre, c'était une excursion ethnographique dans un laboratoire un peu particulier. C'est le Centre international de création vidéo, le CICV à Montbéliard, à Belfort, qui n'existe plus aujourd'hui et qui a un passé très très riche pour l'histoire de l'art vidéo, mais qui s'est mis aussi à proposer à des artistes de créer des œuvres pour le réseau très tôt, en fait, hein, et donc qui accueillait des artistes en résidence de création. Alors moi, finalement, j'étais aussi en résidence d'observation et j'avais affaire à deux personnes qui étaient tous les deux devant une machine semblable, un ordinateur, et qui, je vous assure, au départ, c'était pas toujours évident de savoir qui était l'artiste et l'informaticien entre les deux, parce qu'ils avaient la même culture finalement et les mêmes préoccupations. Alors, Là, il s'agissait de concevoir une image mosaïque du web. C'est l'œuvre d'Efrag, donc de Reynald Drouin, et dont la programmation informatique a été développée par Sébastien Courvoisier, dont on parle. Et je me suis intéressé à la manière dont s'opéraient les processus de traduction, hein, de négociation finalement, entre cet artiste et cet ingénieur, en focalisant mon attention sur un objet technique particulier qui est l'interface utilisateur. Cette interface de l'œuvre me semblait intéressante parce qu'elle devait traduire à la fois l'intention de l'artiste, le fonctionnement, hein, donc l'application logicielle que devait développer l'informaticien, et puis les possibilités d'action ou bien d'agir sûr, sur l'œuvre du public également. Et donc on avait une œuvre qui, en gros, je la décris en deux mots, hein, consistait à, pour l'internaute, à envoyer une image sélectionnée dans son disque dur, un portrait par exemple, et puis à composer une image mosaïque à partir d'une requête par mot-clé sur un moteur de recherche du type Google aujourd'hui, hein, c'était Yahoo et Ditto à l'époque, et ce moteur de recherche ramenait des images, donc c'est intéressant aussi de rechercher des images à partir d'un mot. Et donc, ces images pouvaient être fragmentées de différentes manières, être rendues plus ou moins opaques ou transparentes, et venaient se greffer, un peu comme des vignettes, sur l'image matrice.
Et former une mosaïque.
Cette mosaïque était envoyée à l'adresse de l'internaute qui l'avait conçue, donc, je reviendrai sur l'idée de la conception, justement, et il pouvait la titrer et la signer. Alors, évidemment, on pouvait se demander où est l'auteur dans une œuvre comme ça, mais aussi où est l'œuvre, parce que, en réalité, ce qui était donné à voir n'est qu'un fragment de ce qu'est l'œuvre. Je parle souvent de dispositif pour précisément souligner qu'il y a à la fois un programme, une interface et différents contenus multimédia, mais aussi, finalement, en dehors de cette photographie qui était amenée par l'internaute, il y avait l'intention artistique, il y avait l'application informatique conçue par Sébastien Courvoisier. Il faut savoir que les deux questionnaient la notion de flux et de détournement sur le mode du logiciel libre ou du code ouvert de données préexistantes sur le réseau. C'est-à-dire que le programme qu'a conçu Sébastien Courvoisier était lui-même un hold-up ou un détournement d'applications préexistantes qu'il avait rebricolées pour concevoir, pour cette œuvre d'art-là, un outil pour fabriquer des mosaïques. Et puis les images elles-mêmes venaient du web, finalement. C'est-à-dire que Internet, d'une certaine manière, participait aussi à la forme que pouvait prendre l'œuvre, était aussi auteur d'une certaine façon.
Et du coup, cette question-là de qui est l'auteur, ça pourrait être une des spécificités, justement, de ces questions de net art.
Alors,
dissoudre ou je sais pas, ou reformuler différemment la question de l'auteur, alors soit par la question de la coopération, mais ça on a vu que c'était plus ou moins commun avec des coopérations dans d'autres formes d'art antérieures, mais en même temps, ce que vous me dites là, je me dis bon, d'accord, mais par exemple le cut-up en littérature qui consiste à faire un livre fabriqué à partir d'autres phrases, ça aussi ça interroge la notion d'auteur, enfin voilà, l'auteur est celui juste qui dispose les phrases de l'autre, et en un sens ce que faisait cet artiste, c'est une disposition différente de contenu qui était produit par d'autres. Enfin,
complètement. Il y a cette idée du détournement, du recyclage, du réusage de matériaux qui ne lui appartiennent pas. Mais il y a aussi l'idée que, moi je parle souvent d'œuvres fragmentées et de distribution d'auteurs. Je parle d'œuvres fragmentées parce qu'il me semble ici que, et c'est une condition de la collaboration interdisciplinaire hein, d'ailleurs, chacun est affairé à concevoir une dimension de l'œuvre, le programme informatique, l'interface, ou alors finalement ces images mosaïques elles-mêmes. Et puis ces trois fragments, programme, interface, forme, multimédia, peuvent être appropriés et attribués différemment. C'est-à-dire que l'artiste et l'ingénieur ont inventé ensemble une signature qui devait être non pas collective au sens où une signature interdisciplinaire, vraiment, c'est-à-dire en distinguant différents niveaux d'intervention sur l'œuvre avec des attributions multiples. Et puis, une œuvre, disons, on était auparavant dans des situations de création collective qui ont bien été étudiées par des sociologues, hein, comme Howard Becker, par exemple, mais dans lequel l'artiste gardait un rôle hégémonique de maître d'œuvre et faisait appel, finalement, à des contributions extérieures rémunérées souvent par des droits, pas des droits d'auteur justement, des salaires qui justement privaient les contributeurs d'une revendication de paternité.
D'accord. Et là c'est différent.
Ici on a des coproductions ou des collaborations qui fragmentent l'œuvre également puisque chacun de ces acteurs va pouvoir se saisir de sa contribution, du produit de son travail pour le valoriser dans son monde. Et puis, du coup, on va observer des mécanismes de co-signature qui inversent l'ordre d'apparition noms,
c'est intéressant,
par exemple. C'est-à-dire, devant le monde de l'art, l'artiste va pouvoir revendiquer son œuvre comme étant son œuvre, avec en deuxième nom, éventuellement, la contribution de l'ingénieur. Mais si on passe devant le monde industrielle.
Oui, ça va s'inverser, ouais.
Voilà. Alors d'accord. Ça, c'est des choses qui existent bien en science. Hein. Ouais. On sait très bien aujourd'hui, avec les phénomènes de contributorship ou d'auteurs distribués, justement, combien dans un article scientifique en sciences biomédicales, on a à la fois un listing de contributeurs qui est de plus en plus important, parfois sans signature, mais surtout un formulaire qui demande de préciser dans le détail qui a fait quoi pour que s'organise au mieux cette double dimension de la notion d'auteur qui est le crédit et la responsabilité. Puisque souvent, on est prêt à endosser le crédit, hein, mais quand il y a des cas de litige ou de controverse, la responsabilité doit également pouvoir être assurée.
Et puis, dans la question du netta, il y a la question effectivement de l'interactivité, de l'activité du spectateur. Qui, alors effectivement, encore une fois, n'est pas une question nouvelle dans l'art, mais là, simplement, l'interactivité est quasiment une des définitions, puisque même si il ne faut pas forcément parler de définition, mais en tout cas, qui est une des spécificités de ces œuvres-là, quasiment commune à presque la totalité de ces œuvres, la quasi-totalité.
Oui, sinon que pour ce qui est des œuvres conçues par des artistes qui s'intéressent davantage aux médias ou aux médiums, parfois c'est de réactivité dont il faudrait parler, parce qu'ils conçoivent des dispositifs ou des œuvres qui fonctionnent un peu comme des virus artistiques.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'ils soumettent finalement la vigilance du spectateur à dure épreuve, de l'internaute qui se retrouve face à une machine qui bug, qui réagit bizarrement. Et donc on n'est pas dans une interactivité, au moins au sens où on l'entend habituellement du clic-bouton ou de l'action dont on peut contrôler le résultat immédiatement, hein, mesurer l'effet. On est au contraire dans une forme de passivité, mais de passivité réactive. C'est-à-dire de passivité qui en réalité n'en est pas vraiment une, hein, puisqu'il faut pouvoir reprendre la main sur son ordinateur. Et c'est cette question de capacité à être maître de la machine qui est questionnée aussi par ces artistes-là. Mais la plupart des œuvres sont interactives au sens où elles ne peuvent exister qu'à partir du moment où elles sont agies par le public. Et là encore, ça intéresse énormément le sociologue, puisqu'on a affaire à des... En même temps qu'on a affaire à une conception, après la phase de conception, l'artiste prend aussi en main la médiation de son œuvre, si on veut. C'est-à-dire que c'est lui qui définit des stratégies ou des tactiques de captation, de fidélisation d'un public qu'on enrôle finalement aussi dans le procès de production. Là, le cas de Rénal Drouin était exemplaire de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on l'appelle à participer, il conçoit une image mosaïque dont il devient l'auteur. Évidemment, il n'est pas l'auteur de l'œuvre ou du programme informatique. Il est l'auteur des fruits de son action ou de son interactivité, disons, avec le dispositif, avec l'œuvre des frags.
Et on va devoir malheureusement terminer là, donc on aborde juste des toutes petites parties de votre travail, puisqu'il y aurait la question évidemment de l'exposition, c'est très compliqué, comment s'expose une œuvre de net art, et on voit que 15 ans après le début c'est toujours aussi compliqué.
C'est problématique.
Par exemple quand on va au musée du jeu de paume, il y a régulièrement des œuvres de net art qui sont exposées, c'est dans un petit coin, sur un ordinateur, on voit pas très bien si cet ordinateur c'est finalement un ordinateur qui vous permet de circuler sur le site du jeu de paume ou qui expose une œuvre. Bon, on voit que c'est des questions qui sont compliquées, mais je me demande dans les remerciements que vous faites au début de votre livre, c'est toujours intéressant d'aller voir les remerciements parce que ça dessine une sorte de champ. Vous remerciez Père Musso.
Oui.
Donc il est un moment ou un autre sans doute question de ces histoires d'imaginaire. Je me dis, c'est...
Bah, en même temps, c'est ces travaux antérieurs hein, qui m'ont pas mal inspiré. Et puis, alors évidemment, là je découvre. Hein.
La chaire de modélisation. Tout le monde découvre, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, je me disais, est-ce que, et on terminera là-dessus, mais est-ce que ça fait surgir des formes? Enfin, là je vous fais sortir de votre position de sociologue, mais, parce que là, on a vu des techniques de production, des modes de production, d'interaction, etc. Mais est-ce que ça fait surgir des formes? C'est Pierre Musso qui va répondre.
Pourquoi je suppose vous me remerciez, c'est que j'avais fait il y a une vingtaine d'années un rapport un peu pionnier au ministre de la Culture, à l'époque où on parlait de NTIC, ça voulait dire Nouvelle Technologie d'Information et de Communication. Il n'y avait même pas le web, enfin, il démarrait en 89. Et donc, j'avais réfléchi sur cette question de la rencontre entre le numérique et la création. Et on retrouve, me semble-t-il, dans ce que j'ai écouté sur le Natar, des éléments que je voyais bien, c'est-à-dire l'interaction ou l'interactivité, l'immersion, mais qui était une question déjà posée par les artistes avant même l'émergence de ces techniques. Mmh. Et un point que vous avez moins souligné, c'est pour moi qui est central, c'est que le fait que l'œuvre est d'abord un processus.
Ouais.
Et on l'a bien vu avec la musique dès les années 60, Ce qui devient fondamental, c'est qu'on peut exposer le processus de fabrication, de création, et pas simplement l'objet achevé, mais aussi, ce que vous avez évoqué, la collaboration de multiples compétences pour produire l'œuvre, et aussi quelque chose qui est apparu avec l'art dès les années 50 et 60, c'est-à-dire la sortie du musée, et donc ce qui s'est traduit dans le land art ou dans le net art, etc. Le fait de sortir, et la forme alors, pour répondre à votre question, le réseau, moi j'ai fait un travail sur le réseau, et cette idée de réseau, à la fois c'est une réalité, bien sûr, l'Internet et le web, mais en même temps on raisonne beaucoup en termes de réseau aujourd'hui. Je veux dire que c'est une façon, or, comme dans les années 60, on raisonnait en termes de structure, et dans les années 70, en termes de 80 de système. Aujourd'hui, tout est réseau, et pas simplement l'art. Je dirais, quand on aborde tous les phénomènes sociaux, culturels, on raisonne en termes de réseau. C'est-à-dire que le réseau est devenu une sorte de technologie de l'esprit pour penser les formes et les formes dynamiques qui envahissent notre quotidien. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais une question à poser. Est-ce que le net art, finalement, ou la réflexion sur le net art, n'est pas aussi une forme de traduction de cette omniprésence de la figure du réseau pour interpréter le réel?
Oui, alors c'est même une...
Jean-Paul Fourmentreau.
Quand je parlais donc d'usage pionnier de l'Internet, il me semble que les artistes ont radicalisé, ou en tout cas ont investi dans une dimension prospective, cette question du réseau. Un réseau à la fois en termes de monde, comme j'en parlais, c'est-à-dire qu'on a, on expérimente un monde virtuel, mais qui en réalité est bien réel, hein, avec ses galeries, ses journaux, ses forums, ses revues en ligne, etc. Une œuvre en réseau, puisque elle-même, elle est distribuée, fragmentée entre de multiples auteurs, et puis une façon de travailler aussi en réseau, hein, puisqu'on l'a vu, et là je ne l'ai pas assez dit, mais ces œuvres-là sont parfois disséminées aussi sur la toile, existent en de multiples lieux, sont activées par de multiples internautes qui conçoivent ensemble quelque chose qui peut prendre forme ou non, hein, qui peut rester aussi dans l'inachevé. On a des, si je prends le générateur poétique d'Olivier Aubert, on a davantage un processus de communication qui est mis en œuvre là, qui est instauré, hein, dont on peut retracer le processus, mais qui va se traduire par des cristallisations ponctuelles de choses qui peuvent être, à un moment donné, peuvent exister en tant que, disons, traduction de ce réseau-là en acte, disons.
Pierre Musso.
C'est dans le réseau, il y a des liens, il y a des flux et il y a des lieux.
C'est ça.
Et c'est justement un lien de lieu, disons. Et un des grands défis qu'on va retrouver dans le projet dont on va parler, c'est qu'on fabrique des mondes artificiels, des mondes en réseau notamment, et en même temps, ils sont en dynamique permanente. Et donc, on doit à la fois les fabriquer, les penser et les habiter simultanément. Et ça, c'est le grand défi, à mon avis, de notre époque.
Merci beaucoup, Jean-Paul Fourmentreau. Je vous arrête là, parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler de la chaire de modélisation des imaginaires qui nous intrigue tellement depuis qu'elle est créée. Merci, mais vous pouvez rester évidemment pour la deuxième partie de l'émission et puis intervenir aussi dans cette deuxième partie. La lecture de la semaine, il s'agit d'un article de l'hebdomadaire britannique The Observer qui date de début novembre, article que l'on doit à Ben Popper et qui s'intitule « Créer le Facebook des objets ». L'article commence très à l'anglo-saxonne, le journaliste raconte être assis en face d'un jeune entrepreneur du nom de Joe Enhorn dans son bureau, ils discutent et puis soudain, Enhorn regarde l'anneau que le journaliste porte au doigt et lui demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le journaliste explique porter à son majeur la réplique d'une vieille chevalière gravée des initiales de son grand-père. Le grand-père avait perdu l'original, avait donc fait faire une réplique avant de retrouver la bague quelques années plus tard. Et puis, la réplique fut offerte à Ben Popper à l'anniversaire de ses 25 ans. À ce récit, et tout en faisant tourner l'anneau dans la paume de sa main, Joe Enhorn répond « Vous voyez, ça dit beaucoup d'une personne ». Pour Enhorn, reprend Popper, chaque objet a une provenance, une histoire qui exerce un attrait puissant sur les gens qui l'entourent. Mettre tout ça dans une base de données numérique, pense-t-il, donnerait un nouveau visage au web. Google, poursuit le journaliste, a créé le plus gros moteur de recherche du monde en trouvant la meilleure manière de classer les relations entre les milliards de pages qui constituent le web. Facebook est devenu le plus gros réseau social au monde en construisant le meilleur système permettant de comprendre les identités et les relations des gens qui utilisent le web. Une base de données qui permettrait aux usagers d'identifier et de rechercher tous les objets du monde serait aussi élémentaire et aussi profitable. Imaginez surfer sur le web et pouvoir y apprendre sur chaque vêtement, de chaque image, sur chaque site, en appuyant tout simplement sur un bouton. Au lieu de seulement cataloguer leurs amis sur Facebook, les usagers pourraient commencer à construire aussi l'inventaire de leurs biens. En lien avec cela, ça serait inévitablement inclus le fait de pouvoir partager, échanger, vendre ou acheter. Je vois les objets comme le dernier territoire vierge de l'espace numérique, explique Joe Enhorn. Et son projet, c'est de conquérir ce territoire. Son projet a un nom, Thing Demon, le démon des objets. Un démon est un programme informatique qui fonctionne en arrière-plan et que l'on nomme ainsi en référence au concept grec. Pour les anciens, le démon était celui qu'on ne voyait pas, mais qui était toujours présent et toujours au travail. Et le démon est une partie du plan de Enhorn pour construire la base de données mondiale des objets. Les programmes qu'il est en train de développer avec son équipe parcourent le web en continu, examinent des images, identifient des objets en se fondant sur les textes qui l'entourent, sur les tags, mais aussi sur la forme, la taille et la couleur des images elles-mêmes. Nous avons des centaines de millions d'objets dans notre base de données, explique-t-il, et nous en ajoutons plus de 2 millions par semaine. Mais remarque le journaliste, une base de données n'est pas très intéressante, ni même très efficace, s'il n'y a pas quelque chose au-dessus d'elle, si les gens ne se mettent pas à l'utiliser. Alors l'interaction humaine autour de ces objets est ce qui pourrait élever Thing Demon au-dessus de Google et d'Amazon et aidera le logiciel à identifier de manière plus sûre les éléments et les marques. Le but, explique Enhorn, c'est de suivre le modèle de Facebook. Nous devons d'abord avoir une base de données solide. Maintenant, nous sommes prêts à commencer la construction de la plateforme. Et Enhorn a déjà développé deux plateformes. The Fancy, un site qui s'intéresse à la mode, permet par exemple aux usagers de taguer les objets. Manifestement, le site a beaucoup de succès. Un autre, Plastastic, va tenter de provoquer le même enthousiasme chez les collectionneurs de jouets. Un site sur les comics va bientôt être mis en ligne. Et Enhorn pense permettre aux gens de créer des applications ou des sites autour des objets qui sont contenus dans des bases de données. Alors, pour penser ce travail de mise en relation sociale des objets, Enhorn a reçu le soutien notamment de Jack Dorsey et de Chris Hughes, qui ont participé respectivement à la fondation de Twitter et de Facebook. C'est dire que ce n'est pas un petit projet qu'il est en train de développer. Il faut attendre la fin du papier pour comprendre à quel type de relation pense Enhorn quand il pense à des liens qui passeraient par des objets. Qui peut dire comment on devrait être reliés les uns aux autres, dit-il au journaliste The Observer. Ce n'est pas aussi simple que le fait de bien aimer quelqu'un ou d'en faire son ami. Le commerce est le cœur de beaucoup de ces relations et ça complique tout. Ce que je, entre parenthèses, je ne comprends pas très bien. Enfin, l'anecdote finale est tout aussi ambiguë. Enhorn raconte au journaliste un article qu'il a lu récemment. L'article raconte l'histoire d'un tableau qui est tombé derrière un canapé. Bien des années après, la famille bouge les meubles, regarde le tableau avec un nouvel œil et puis des éminents historiens de l'art convoqués voient un Michel-Ange. Qui vaut probablement des millions. Pour Enhorn, il est évident que le vieux canapé est un acteur de l'histoire aussi intéressant que l'inestimable tableau. Alors, quelques mots juste sur ce papier. À première vue, je trouve l'idée d'un Facebook des objets assez belle et même une sorte d'équivalent numérique du Parlement des choses de Bruno Latour. Chez Latour, le Parlement des choses était ou serait le moyen de donner une représentation politique aux choses. Et je trouve assez belle l'idée d'utiliser le modèle de Facebook pour donner une sorte de sociabilité aux objets, de pouvoir cartographier le réseau d'un objet, c'est-à-dire une sorte d'histoire et de géographie de ces objets. Bon. Avec ce paradoxe qui n'est qu'apparent que le numérique est souvent dénoncé comme un lieu d'une dématérialisation, soit le lieu qui permette cela. Mais j'ai pas l'impression que le projet soit exactement celui-là. En fait, je comprends pas très bien l'idée de ce projet. Est-ce qu'il s'agit de faire sortir les objets du rapport strictement matérialiste que nous entretenons avec eux ? Dans ce cas, pourquoi pas ? Ou est-ce qu'il s'agit de passer par les objets pour créer un vaste réseau social ou une multiplicité de réseaux sociaux de niche qui dépasse Facebook parce que, au fond, selon Enhorn, le plus fort rapport que les hommes entretiennent entre eux passe par les objets, par leur échange et leur commerce, ce qui serait une hypothèse, je trouve, assez déprimante. On verra bien. Vous pourrez retrouver cette lecture dès lundi matin sur le site d'Internet Actu et le lien vers l'article de The Observer sur la page de Place de la Toile.
Qui a perdu une carte postale de l'île dorée, un gant blanc pour une main petite, une clé, un faux nez, une photo avec écrit au dos Marguerite.
Vous écoutez France Culture, Place de la Toile et Serge Reggiani, évidemment les objets perdus, qui ne le sauront jamais vraiment si existe un jour le Facebook des objets. Pierre Musso, bonjour à nouveau, on vous a entendu il y a quelques minutes. Vous êtes un grand connaisseur de Saint-Simon, je ne sais pas pourquoi je commence par là d'ailleurs. Votre sujet de thèse était Saint-Simon et le Saint-Simonisme et les réseaux télécoms d'ailleurs. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Saint-Simon et Saint-Simonie, vous êtes spécialiste de la question des réseaux, donc vous êtes professeur en sciences de l'information et la communication à l'Université de Rennes, ainsi qu'à Télécom Paris Tech, et c'est conjointement avec ces deux institutions, ainsi qu'avec quatre grands partenaires privés, que vous avez fondé une chaire d'enseignement et de recherche qui va nous occuper pendant cette seconde partie de l'émission, car cette chaire, inaugurée en octobre, dont vous êtes le premier titulaire et pendant les 5 ans à venir, s'appelle « Modélisation des imaginaires, création et innovation ». Alors je suis très content de vous recevoir, car j'avoue, je le disais tout à l'heure, avoir été très intrigué par ce titre « Modélisation des imaginaires ». Alors, je trouve ça très beau, très paradoxal. Et j'ai du mal à comprendre ce que vous entendrez par là, Pierre Musso.
Je vous remercie de m'avoir invité. Puisque vous avez commencé par Saint-Simon, moi ça me fait plaisir, parce que dès 1819, il proposait de lancer, donc au début de la révolution industrielle, disons au moins en France, un mouvement national d'innovation. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose qu'on annonce de façon récurrente, cette espèce d'obligation d'innover. Il y avait une deuxième idée chez Saint-Simon, et je pense que c'est ça qui a fait faire le lien, c'est qu'il disait, enfin la formule n'est pas de lui, mais il l'a inspiré, il faut passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le gouvernement des choses et l'administration des hommes. C'est-à-dire qu'on a réalisé sa prophétie peut-être, mais en l'inversant.
À l'envers. Ouais.
Et la dernière remarque toujours sur Saint-Simon, avant de venir à l'intrigue, c'est qu'il plaidait pour la rencontre entre le monde de l'industrie, les savants, le monde de la science et les artistes. Et c'est même sa fameuse utopie qui me fait encore rêver, qui a été le point de départ d'ailleurs de mes réflexions là-dessus, qu'il appelait le temple de Newton dans un de ses premiers textes. Donc, faire travailler ensemble le monde scientifique, le monde industriel et le monde artistique. Et lorsque, pour ma part, j'ai commencé, j'évoquais tout à l'heure ce rapport que j'avais fait au ministre de la Culture, je compare le processus d'industrialisation du 19e au processus que nous vivons aujourd'hui, qui pour moi est un processus d'informatisation au sens large du terme. C'est-à-dire que s'il y a une rupture du point de vue technique, elle est antérieure au web et à Internet, elle est liée à l'invention de l'ordinateur, pour aller vite, disons, durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous vivons une mutation majeure qui est comparable à celle de l'industrialisation avec le processus d'informatisation se traduisant aujourd'hui par la rencontre, grosso modo, entre le monde de l'informatique et des télécoms, donnant lieu donc à l'Internet, au web et aux réseaux sociaux. Alors, l'exigence à nouveau de faire se rencontrer le monde scientifique, le monde artistique et le monde industriel se pose de la même façon dans le cadre de ce processus d'informatisation. D'où ce projet, ce lancement de cette chaire que nous avons donc inauguré il y a un mois au Palais de la Découverte. Alors, l'idée « modélisation des imaginaires », et je veux réattribuer le terme à celui qui me l'a proposé, c'est Pascal Dalloz qui est le vice-président de ce système, que cette chaire naît d'une rencontre improbable, comme souvent dans l'innovation, c'est-à-dire entre « je vais voir Pascal Dalloz », on avait écrit un bouquin avec des amis sur Fabriquer le futur, sur l'imaginaire dans l'innovation. Et la préface avait donc été faite par le responsable de Dassault Systèmes. Donc, à cette occasion, je vais le voir, je lui dis, voilà, moi, il me semble qu'aujourd'hui, dans le champ de la recherche, il faut vraiment travailler sur les imaginaires, l'imaginaire comme matière première. Réponse de l'industriel, si on veut le qualifier comme ça, c'est évident. Alors, moi, je suis resté un peu baba, qu'on me dise, dans le champ de l'industrie, travailler sur l'imaginaire, c'est évident.
Surtout chez Dassault.
Non, ah Dassault Systèmes, il travaille sur les mondes virtuels. Dassault Aviation a travaillé sur la simulation. Et donc, grâce aux acquis de la simulation dans le secteur, notamment de l'aviation, ou disons dans le secteur industriel, ils ont développé une société autonome qui s'appelle Dassault Systèmes, dont le projet est les mondes virtuels en 3D.
D'accord.
Voilà. Et donc, ils sont vraiment dans le virtuel, dans l'imaginaire, comme matière première. Et donc, Pascal Dalloz me dit, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller à la modélisation des imaginaires. Alors ça m'a fait effectivement beaucoup réfléchir.
Ah, vous aussi, ça vous a intrigué ?
Oui, ça m'a intrigué.
On n'est pas les seuls.
On s'est posé la question, est-ce qu'on gardait d'ailleurs après modélisation des imaginaires ou est-ce qu'on disait modélisation et imaginaire ? Alors, on a gardé des imaginaires, y compris pour le côté provocateur et intrigant qui soulève votre question. Alors, pourquoi ? Modéliser, c'est quand même l'activité scientifique traditionnelle, de base. Un scientifique va passer, va simplifier, souvent par la mise en équation, pour essayer d'explorer, voire éventuellement de prévoir. Et donc, modéliser, ça a ce premier sens, c'est-à-dire le sens de l'abstraction. Mais ça a un deuxième sens, c'est aussi l'illustration, c'est-à-dire la simulation, la projection à partir d'un concept, par exemple, la projection dans un objet ou un dispositif justement de simulation, comme on les emploie beaucoup avec les univers en trois dimensions, les univers virtuels aujourd'hui. Donc, modélisation, il faut l'entendre dans ce double sens. Alors, modéliser les imaginaires, évidemment, il y a un côté provocateur, parce qu'on se dit, mais attention, c'est Big Brother, c'est le contrôle des esprits, c'est quelque chose comme ça. Évidemment, il y a des limites multiples, à commencer par des limites toutes simples, qui sont des limites pas simplement éthiques et esthétiques, mais des limites objectives. C'est-à-dire qu'il faut explorer le champ de l'imaginaire, et on sait bien, avec les neurosciences, avec la psychanalyse, avec les sciences humaines et sociales, qu'on peut aller jusqu'à la structuration des imaginaires, c'est-à-dire à trouver une grammaire de l'imaginaire, à trouver des logiques de l'imaginaire, et c'est bien ce sur quoi nous travaillons. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à modéliser intégralement les imaginaires? C'est absurde. Et c'est justement, comme disait Paul Valéry, il dit toute l'histoire de l'esprit humain, c'est des recherches absurdes, mais qui aboutissent à des résultats. Donc ça, c'est la phrase exacte, c'est, il dit, l'esprit humain est grand, et il est absurde par ce qu'il cherche, et il est grand par ce qu'il trouve. Alors, est-ce que c'est absurde de chercher à modéliser les imaginaires? Alors, il y a évidemment énormément de travaux déjà. Je vous en donnais des très classiques dans le champ des sciences humaines et sociales. Lévi-Strauss, qui a cherché les structures des mythes. Mais plus près, je dirais, de notre préoccupation, Gilbert Durand, le sociologue. Et en amont, Bachelard. Parce que Bachelard nous dit, en fait, il y a le nocturne et le diurne. Il y a la science et l'épistémologie, mais il y a tout le travail sur l'imaginaire. Or, dans les processus d'innovation aujourd'hui, et c'est pour ça que le monde de l'industrie, et moi je suis très heureux de travailler avec le monde de l'industrie et le monde artistique en tant que scientifique, le grand défi, c'est qu'on a beaucoup développé tous les modèles scientifiques dans le processus d'innovation, c'est-à-dire les concepts, les méthodes, mais très peu les modèles perceptifs. C'est-à-dire que ce qui nous fait problème aujourd'hui dans le rapport à la technique, notamment, c'est l'émotion, c'est la sensation. Par exemple, tout le débat qu'il y a sur les robots ou sur les avatars, c'est tout le problème du rapport émotionnel, passionnel, donc affectif. Et l'imaginaire, c'est ça. L'imaginaire, c'est à la fois des images et des récits, mais c'est aussi des représentations. Je vous donne un exemple très simple. Sartre dit, qui a écrit un beau bouquin sur l'imaginaire, Sartre dit, quand je prends la photo d'un être absent, j'essaye de viser son absence, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi l'émotion que ça représente. Donc, c'est à la fois l'absence et l'émotion. Et donc, le champ du travail de recherche sur l'imaginaire, il est immense. C'est d'essayer de comprendre notre rapport aux objets, aux techniques, à notre monde, par le biais des modèles perceptifs, émotionnels, passionnels et les représentations. Et c'est un champ immense, parce que quand on travaille sur l'innovation, la vitesse d'innovation et l'innovation technologique, on sait faire, et je dirais qu'on sait d'autant mieux faire qu'aujourd'hui, il y a deux flux d'innovation. Il y a celui qui vient des laboratoires scientifiques ou industriels, mais il y a celui qui vient de plus en plus aussi du web, des réseaux sociaux. Donc, le flux d'innovation ne cesse de s'enrichir. Mais les usages, on commence à les connaître ou à les explorer. On a ajouté le design, on a ajouté l'ergonomie. Mais là où on a une grande difficulté, c'est à inscrire les objets qui nous entourent dans des univers imaginaires.
Mais le but, c'est quoi? C'est d'identifier les imaginaires qui sont à l'œuvre dans l'innovation, parce qu'on sait que les nouvelles technologies sont un lieu où l'imaginaire est particulièrement performatif par rapport à d'autres formes d'innovation. Où est-ce qu'il est de créer des imaginaires qui entraîneraient l'innovation? Donc du coup, d'orienter l'innovation, qui sont deux choses différentes. Il serait où le but? Ou alors peut-être que le but, il est double, que c'est ces deux buts-là,
Pierre Musso. Le but d'abord, c'est de comprendre des modèles perceptifs de l'innovation. Et ces modèles perceptifs passent par le récit et la conversation, la narration, ce qu'on a appelé le storytelling, mais qui est une dimension managériale de la narration. Donc le récit et en même temps la création d'univers. Je vous donne un exemple lié au processus d'industrialisation. Le processus d'industrialisation du 19e a quand même abouti à la fabrication de ce qu'on a appelé les industries culturelles. Et comme une des figures majeures, le cinéma. Or, si vous réfléchissez sur ce qu'est Hollywood, le cinéma en général, c'est à la fois la création d'univers, de fiction, de rêves, et en même temps de narration et de scénario. Et on a été très loin dans le processus d'industrialisation de la fabrication du cinéma ou de l'audiovisuel. C'est bien pour ça qu'on a employé la formule industrie culturelle. Mmh. C'est à la fois un art et une industrie, comme disait Malraux ou comme disait l'école de Francfort. Donc, nous avons le même défi avec le processus d'informatisation. Alors, ça veut dire explorer la narration et le récit. Je vous donne un exemple sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo lui-même, puisque nous avons Ubisoft aussi comme partenaire avec PSA, Peugeot Citroën et Orange, et donc Dassault Systèmes et Bell Labs, Alcatel, qui sont les partenaires industriels de cette chaire, qui est une chaire d'abord de recherche et de formation. Et donc, je vous donne l'exemple des jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est à la fois la création d'un univers, évidemment d'un récit avec une narration, mais c'est aussi l'objet de conversations multiples par les utilisateurs. Donc il y a un jeu permanent entre la conversation, la narration ordinaire et la narration du jeu vidéo. C'est quelque chose que nous allons explorer du point de vue de la narration et que nous pouvons aller assez loin. Nous avons déjà des recherches dans ce domaine, assez loin dans la modélisation, voire dans la mathématisation de la conversation et de la fiction. On a des modèles mathématiques, par exemple, sur la conversation. Ce qui est important dans la conversation, c'est l'inattendu dans le récit. Donc, comment on peut percevoir, analyser, voire mathématiser l'inattendu dans la conversation? Et dans la chaire, on va faire ce travail sur la fiction, jusqu'où on peut aller. Deuxième élément, la création d'univers de forme, que ce soit des univers virtuels, des univers imaginaires. Et donc, là aussi, on veut explorer jusqu'où on peut aller dans la formalisation. Et le troisième enjeu de cette chaire, c'est de voir le lien entre l'imaginaire et le processus d'innovation lui-même. C'est ça même, je dirais, le point central, parce qu'il y a une mutation complète du processus d'innovation aujourd'hui. On n'est plus dans une innovation linéaire qui partait de la technique ou qui partait du marché, pour dire vite, ou des usages. On est dans un processus d'innovation que certains appellent holistique ou organique, qui prend une figure, disons, circulaire, si on veut, intégrative, et dans laquelle se confrontent les imaginaires de nombreux acteurs, ceux des concepteurs, bien sûr, ceux des utilisateurs, ceux de tous ceux qui parlent de l'innovation, la littérature, la science-fiction, la BD, la publicité, le marketing, les pouvoirs publics, qui tous entrent en jeu et confrontent leur représentation. Et donc, c'est l'exploration de cette multitude des imaginaires qui est l'objet même de notre chaire, en lien donc avec l'innovation.
Donc pour ça, vous allez faire appel à des ingénieurs, des scientifiques, des philosophes, des écrivains, et les faire discuter. Quelle forme ça va prendre? Ça va être des séminaires, des séminaires de recherche, des cours ouverts?
Alors, vous avez raison, d'abord, c'est interdisciplinaire. Et ça, pour Et ça, pour nous, c'est parce que c'est à la mode de parler d'interdisciplinarité. Bon, c'est ce que je disais dès le départ, faire travailler la communauté scientifique, artistique et industrielle ensemble. Ce qui est déjà quelque chose de très intéressant, y compris la collaboration que nous avons entre les partenaires que j'ai évoqués, académiques et industriels entre eux. Elle est interdisciplinaire. Comment elle travaille concrètement? Elle travaille autour de production de concepts et de méthodes. Alors ça passe par des confs, des séminaires. Première conférence, 13 janvier, avec Jean-Jacques Wunenberger, qui est prof de philo à Lyon, qui nous parlera de l'imaginaire. Ça a lieu à l'École des télécoms de Paris. Deuxième initiative, des séminaires sur des thématiques. Je vous dis, par exemple, psychanalyse et imaginaire.
D'accord.
Ou neurosciences et imaginaire. Ensuite, on va travailler sur des ateliers. Donc des ateliers sur des concepts et des ateliers sur des objets. Alors, exemple, nos deux champs principaux, pour démarrer, c'est autour de
du
territoire augmenté de la ville, puisque notre hypothèse qui résulte de travaux déjà antérieurs, c'est que nous habitons un double monde. Il n'y a pas de dématérialisation ou de coexistence. Il y a deux mondes aujourd'hui, numérique et physique, pour aller vite. Et tout le défi, c'est non seulement de les penser, de se les représenter, mais de les habiter. Même de les cartographier. On ne sait pas encore les cartographier, ce double monde. Donc on est en plein dedans. Quotidiennement, on va de l'écran à la conversation face à face. Mais il n'y a pas substitution, contrairement à ce qu'on dit. Donc comment habiter ce double monde? À commencer par l'urbain, la ville imaginaire, la ville numérique, la ville physique. Et deuxième objet très opérationnel, le corps lui-même, le corps physique. Nous avons de plus en plus des doubles du corps. Il y a une technologisation du corps, avec ce grand processus de technologisation généralisée de nos sociétés. Et le corps physique se double d'avatar, se double de robots, se double d'objets technologiques. Comment articuler, comment penser, comment produire autour de cette dualité? Donc, on va travailler avec des ateliers, puis après avec les outils classiques de la recherche, des thèses, des études, et puis de la formation. Et là aussi, de la formation interdisciplinaire entre écoles d'ingénieurs, comme Télécom Paris-Tech. Rennes est une fac de sciences humaines et sociales. Et puis les écoles d'art, l'ENSAD, par exemple, les écoles du design.
Et juste, je vous interromps, Pierre Musso, mais il va falloir que nous concluions cette émission. Et je me posais une question en vous écoutant. Je me demandais s'il n'y avait pas comme ambition aussi, une ambition qu'on pourrait dire de politique, mais à l'intérieur du champ du numérique, qui serait de ne pas laisser les questions imaginaires dans le champ des technologies à ceux qui, pour l'instant, en ont quasiment la propriété, qui sont notamment les courants de la singularité dont je parle régulièrement ici, le transhumanisme, enfin... Parce que c'est eux, aujourd'hui, qui fournissent le gros de l'imaginaire des nouvelles technologies. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière ça, l'ambition de donner d'autres imaginaires ou montrer que ça provient d'autres imaginaires, Pierre Musso?
Alors, de mon point de vue, le défi que nous avons, c'est que les techniques aujourd'hui, il y a un processus de technologisation généralisée de la société. Or, les techniques, contrairement à ce qu'on dit trop vite, ce n'est pas simplement des outils et des instruments, ce sont aussi des fictions, des représentations, ce que Georges Balandier, le sociologue, appelle le techno-imaginaire. Or, aujourd'hui, une des sources majeures de production de nos représentations et de nos imaginaires, ce sont les techniques, parce que les techniques sont valorisées comme bien sémiophores, c'est-à-dire productrices de signes. Et travailler sur les fictions liées à la technique, c'est travailler sur la question centrale de nos sociétés, qui est le lieu majeur de production de fiction et de représentation. Il n'y a qu'à voir la science-fiction, la littérature, le cinéma d'Hollywood, la BD, etc. La technique est ce qui, aujourd'hui, fait rêver. Rêver ou peur, c'est la même chose à l'envers. Mais c'est, dans nos sociétés occidentales en particulier, la référence majeure. Donc, travailler sur le processus d'innovation technique et à l'intérieur du processus, là où il se fait dans sa dynamique, c'est-à-dire avec des industriels. C'est pour ça que moi, je suis très favorable au travail. Non pas faire un discours sur la technique extérieure ou une critique de la technique d'un point de vue méta, voire métaphysique, mais être dans le processus qui se fait avec les industriels et les créatifs et les créateurs qui fabriquent, par exemple, les jeux vidéo ou les univers virtuels, et à l'intérieur du processus même, en faire la réflexion, la critique, l'analyse, c'est-à-dire accompagner le développement de la puissance en lui donnant le sens. Je crois que c'est ça le grand défi, c'est qu'on a la puissance technologique et que la question qui nous est posée, c'est le sens de ce processus de puissance.
Bah, écoutez, Pierre Musso, on suivra avec intérêt, en tout cas, le travail qui sera mené dans la chaire de modélisation des imaginaires, puisque c'est convergent en bien des points avec ce qu'on essaye de faire laborieusement en place de la toile chaque semaine. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Paul Fourmentreau et Pierre Musso. Alors, la semaine prochaine, on inaugure un partenariat Place de la Toile, lemonde.fr, Internet Actu. L'idée, c'est de choisir environ une fois par mois un sujet commun et de constituer une sorte de dossier qui s'enrichit à la fois de nos contenus réciproques et de la manière dont on les formule et on les diffuse. Ainsi, autour de chaque question, vous aurez à disposition un article sur Internet Actu, un chat sur lemonde.fr et puis une émission de Place de la Toile. Alors, le thème de ce premier dossier, c'est les données, leur multiplication, leur diversité, leur ouverture. Alors, quant à moi, j'ai choisi de traiter un aspect particulier de cette question sous l'angle de la prédiction. Qu'est-ce que les données nous permettent de prévoir? Quelles tendances peut-on dégager des statistiques qui sont fabriquées à partir de ces immenses bases de données qui s'accumulent à chaque instant sur Internet? Alors, ça donne des domaines très, très variés. Ça touche des domaines très variés comme la politique, le marketing, les feux de forêt, la circulation, les comportements amoureux. Bon. Et ça pose des questions qui touchent à la fois aux mathématiques, à la statistique, à l'éthique et puis à la philosophie. Donc, qu'est-ce que les données nous permettent de prévoir? Ce sera dimanche prochain dans Place de la Toile, à suivre donc sur Internet Actu et lemonde.fr. Par ailleurs, pour ceux qui veulent prolonger les discussions qui viennent d'avoir lieu là, ici, dans notre studio, je vous invite à nous retrouver dans quelques minutes dans la wiki radio de Place de la Toile. Vous allez vous servir un thé pendant 15 minutes, puis après vous branchez sur la page Place de la Toile sur le site internet de France Culture, vous activez le player de la wiki radio, puis on peut discuter de ce qui nous a occupé pendant cette heure, les imaginaires, le net art, un Facebook des objets, puis on sera accompagné sans doute par un invité. Place de la Toile, Daphné Amgral, Xavier Delaporte à la technique. Aujourd'hui, c'était Jean-Sébastien Rago, réalisation Jean-Christophe Francis. Très bonne semaine à ceux qui restent à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, le journal, puis les retours du dimanche.